quand je suis partie travailler en usine, qui était en janvier 68, je n'avais absolument pas l'intention d'écrire quoi que ce soit, sauf des tracts. Bon. Bon, qu'il y a eu à la fois l'expérience de l'usine et dans la foulée, il faut quand même le dire, au mois de mai de la même année, le mouvement de mai. Bon, tout ça m'a évidemment durablement marqué. Et en même temps, j'ai mis un certain temps, en fait, à vouloir et pouvoir écrire quelque chose sur cette expérience. Donc, c'est évidemment une expérience de terrain, mais qui n'était pas en vue de... Et la nécessité d'écrire est venue après. Parce que je me suis... Quand il y a eu 10 ans après, il y a eu comme une cloche, je me suis dit, c'est pas possible de ne pas écrire ça. Voilà.
Et alors, par rapport à une phrase de l'ouverture de Daewoo, de François Bon, hein, sur la question de ce que pourrait signifier témoigner, c'est-à-dire présenter, hein, une parole, c'est aussi une question autour de laquelle nous avons tourné hier, hein, présenter une parole ou produire une parole. Hein. Je voudrais citer justement un fragment de, de ce très beau passage, hein, qui justifie pour lui l'écriture de Daewoo en 2003, « Refuser, faire face à l'effacement même. » Et il justifie l'appellation de roman, hein, pour ce livre, par le fait qu'on voudrait, je le cite, hein, « on voudrait qu'il émane de cette présence si étonnante parfois de toute chose, là, devant un portail ouvert, mais qu'on ne peut franchir, le silence approximatif des bords de ville un instant tenu à distance, et que la nudité crue de cet endroit précis du monde, on voudrait qu'elle sauve ce que béton et ciment ici enclosent, pour vous qui n'êtes là qu'en passager, en témoin. Finalement, on appelle roman un livre parce qu'on a marché un matin dans ce hall où tout était devenu géométrie pure, et le territoire arpenté, les visages et les voix, les produire, est ce roman. Est-ce que faire face à l'effacement ou faire face à une forme de relégation de la parole ou relégation des visages, justement déclencher des années plus tard, en fait, le geste d'écriture pour vous?
Ben, ce qui est sûr, c'est que tout d'un coup, c'est devenu insupportable qu'il n'y ait pas de trace, pour moi, d'abord, de cette expérience. En même temps, par rapport au mot témoigner, bien sûr, je crois que c'est un mot tout à fait valable, en même temps pas si simple, parce que à la base, il y a tout de même une sorte de grande différence entre témoigner d'une réalité, donc être au plus près de la réalité et d'une description de la réalité, et témoigner, bon, parce que faute d'un autre mot, je vais appeler le réel. Le réel, pour moi, tout de même, englobe une singularité, quelque chose d'une parole unique, d'une personne qui a vécu l'univers de la réalité, comme d'autres, à un certain moment. Donc, bon, autant, disons, disons qu'un journaliste raconte, bon, autant je pense qu'un écrivain raconte comment c'est raconté, c'est-à-dire que c'est pas possible de ne pas avoir cette distance tout de même, distance qui est en même temps bien entendu une implication, un engagement, etc., mais en tenant compte d'une singularité, c'est tout de même ça qu'on cherche.
Donc, une singularité, voilà. Et aussi qui s'exprime par les mots, par
le langage. C'est-à-dire il y a ce paradoxe tout de même qu'on travaille avec ce qui est la chose la plus commune entre les hommes, c'est-à-dire le langage, bon, le fait qu'on parle, mais le langage est à la fois polysémique et adressé, et la façon dont on entend les mots et dont on les dit, et la façon dont on les adresse et à qui on les adresse et comment ça tombe l'adresse est toujours singulière. Et chacun fait avec ça. C'est tout le problème, disons, de la communication.
Alors peut-être que justement, vous nous mettez sur la piste d'une distinction fondamentale entre le, disons, alors je vais reprendre le mot témoignage pour aller vite, le témoignage du journaliste ou la parole de l'écrivain, puisque vous écrivez dans Les Outils en 2003 que les écrivains qui s'intéressent au lien social, je vous cite, peuvent trouver un sens dans des expériences de terrain souvent éprouvantes, parce que ces expériences sont aussi la réaffirmation de ce qui fonde leur travail à eux, écrivains, la fonction écrivain, l'écrivain comme transmetteur de la fonction même du langage. Mmh. Et donc cette réflexion sur le langage, c'est-à-dire à la fois sur la justesse et sur l'adresse, qui sont vraiment deux mots fondamentaux de votre réflexion, et j'imagine de toute réflexion sur la littérature.
Ben oui, c'est-à-dire, en tous les cas, il me semble que, moi, je pars souvent de mots. C'est-à-dire, le mot usine, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Bon, là, récemment, dans Désordre, le mot violence. C'est-à-dire que tout de même, il y a toujours, et c'est peut-être aussi, ça rejoint ce que dit François Bon, sur la question de la résistance. C'est-à-dire qu'on résiste, on se bat toujours contre la banalisation des mots, comment les mots tombent dans un trou. Bon, parce que on se les refile, c'est bien connu, comme des pièces de monnaie qui veulent plus rien dire. Bon, mais c'est aussi ce que fait tout le monde, à la fois tout le monde, et je ne parle pas des hommes politiques qui ont, d'une certaine façon, un certain monopole de la langue. Bon, donc je crois qu'il y a toujours cette façon de vouloir redonner leur sens aux mots. Bon, leur sens étant à la fois le sens qui peut toucher tout le monde et un sens qui est propre. Enfin, bon, c'est comme ça que je le vois.
Oui, oui. Alors justement, puisque vous parlez de Désordre, paru en 2019, je voudrais en venir à votre rapport à ce qu'on pourrait appeler l'actualité, disons, et en particulier, donc, interroger le titre de cette série depuis maintenant, cette série de récits qui est initiée en 1996 par Miss Nobody Knows. Et vous demandez si, pour vous, il y a, au cours de ces 20 ans qui viennent de s'écouler, une continuité, une réaffirmation de votre... Non pas de votre rapport à l'actualité, mais de votre implication selon les mêmes modalités, ou s'il y a une évolution, et en particulier donc entre certains textes du début de votre œuvre et puis Mathias ou la Révolution et Désordre, qui vient de paraître.
C'est-à-dire, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour juger de la continuité de mon travail, parce qu'au fond, bon, j'ai justement une grande implication dans ce travail. Bon, cependant, je pense que oui, d'une certaine façon, je me sens autant concernée par l'actualité, par le monde tel qu'il est, par le bon, et donc aussi par la nécessité de trouver comment dire quelque chose qui en même temps, oui, est adressé au monde actuel et avec le désir que ça provoque. De l'éveil, et bon aussi ce que j'ai appelé du renversement de pensée, c'est-à-dire une façon de voir les choses autrement que ce qui est donné. C'est-à-dire, récemment, Désordre, en effet, on parlait, mettons les médias dominants de violence, etc. La question était évidemment d'où elle vient. Alors, on peut aussi prendre la question complètement à l'envers, la retourner. Bon, ce qui crée un certain effet comique, si on décrit vraiment des crimes, évidemment imaginaires, accomplis par des gens en position d'exploiter. Enfin, bon, tout ça, c'est... Il me semble que ce n'est pas le même renversement que j'avais exactement montré dans Louise et les Folles, le théâtre, etc., qui concernait plutôt la question de, des femmes, mais du langage aussi, très directement. Mais ça a à voir. Donc, il y a une continuité.
Alors, je vais intervenir sur... d'une part, le titre... de cet ensemble, depuis maintenant, que je trouve vraiment très riche, Parce qu'il exprime à la fois une distance, un recul, mais jamais un surplomb, puisque précisément, on est dans la situation dont vous parlez, maintenant.
Oui,
et donc, il n'y a pas une sorte de prétention à rendre intelligible de l'extérieur, tout à fait, quelque chose.
Oui, c'est vrai.
Et alors, puisque vous parlez de Louise, elle est folle, est-ce que... ou laquelle, plus exactement d'ailleurs, quelle complémentarité, en fait, voyez-vous entre l'écriture narrative et l'écriture dramatique, en particulier peut-être liée à cette question du langage, de l'adresse aussi, bien sûr.
Écoutez, alors là, peut-être que moi, je ne veux pas trop me poser la question, mais je pense qu'il y a forcément, il y a, le même type de question. C'est-à-dire que la création, pour moi, de personnages dans les romans part d'un désir de... Bon, à la fois de description et d'imaginer ce que j'ai appelé des personnages porte-questions. C'est-à-dire des personnages qui posent des questions, évidemment, à moi-même et au lecteur. Et le fait est que dans une pièce de théâtre, eh bien, ils sont là incarnés ou elles sont là incarnées, puisque les trois pièces ont été écrites pour des femmes. Bon, là, pour le moment, j'espère que je ferai aussi pour des hommes, là, dans les temps qui viennent. Mais donc, elles sont des questions elles-mêmes. Bon, et elles échangent ça. Et ça, je crois que... Donc, là encore, il y a une espèce de continuité. Et pourquoi ça prend une forme de théâtre? Parce que j'imagine la scène, comme la page, et le fait que des personnes parlent. Mais ils parlent aussi beaucoup dans les livres, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que, pour moi, les livres ont toujours... Enfin, j'ai envie de faire beaucoup de dialogues dans les livres.
Oui, alors effectivement, ça c'est tout à fait frappant, la part du discours du personnage, la parole du personnage, de la parole et de l'énonciation du personnage dans le livre. Et ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est que vous insistez, comme romancière, mais c'est la même chose comme dramaturge, vous venez de le dire, sur l'importance du personnage qui est évidemment une personne comme si, une personne fictionnelle. Qui, dites-vous, et ça c'est une question sur laquelle nous reviendrons sûrement demain, en particulier autour du livre d'Alexandre Geffen, qui, dites-vous, n'est pas un alter ego auquel il s'agirait de s'identifier ou avec lequel on compatirait, mais qui est un alter ego avec lequel on entre en relation, et j'insiste sur le fait qu'il y a dans l'idée de la relation un écart et un accueil, et donc pas strictement une empathie fusionnelle, bien sûr. Et ce personnage, il est, dites-vous, et ça, je pense que c'est votre rapport à la psychanalyse aussi qui nourrit toute cette réflexion, il parle parce qu'il est constitué par le langage, et que finalement, effectivement, bien sûr, nous usons d'un langage que nous recevons, qui est tout à fait extérieur à nous, mais qui nous construit. Et c'est une des ambitions de vos textes, je pense, c'est vraiment de faire éprouver au lecteur cette expérience de la subjectivation par les mots. Dans Louise, elle est folle, je trouve ça particulièrement frappant. Alors évidemment, parce qu'on l'entend aussi au théâtre. Mais il me semble que, dans les outils, vous écrivez que quand vous êtes impliqué par le personnage... Ce n'est pas du tout pour vous dire « moi aussi, je suis comme lui » et donc en faveur d'une forme d'introspection qui reviendrait ou d'empathie qui reviendrait à nier le tranchant des actes et surtout à éviter de penser, dites-vous. Mais c'est comme à un possible, une fiction, j'aurais pu être comme lui, comme n'importe quel être humain. Et il s'agit donc de rétablir justement la dimension de la possibilité. Et donc, finalement, d'envisager l'imagination, la fiction, comme nourriture et comme moteur et comme vecteur de la littérature, comme une possibilité d'instituer un autre réel, d'instaurer un autre réel, de présenter un autre réel, et non pas de représenter le réel dans lequel nous sommes englués. Et vous dites cette chose que je trouve vraiment très stimulante. La fiction, c'est une façon à la fois de prendre la réalité au sérieux et d'expérimenter sa non-nécessité. Et Marie Connet, au début du livre qui s'appelle, très beau livre qui s'appelle Entre chagrin et néant, cite Castoriadis et rappelle le sens que Castoriadis donne à l'imagination radicale, instituante. Et je pensais à cela en lisant cette déclaration. La fiction est une façon d'envisager la non-nécessité de la réalité, autrement dit de pouvoir la penser et penser une alternative.
Oui. Ben, vous savez, bon, j'ai pensé que la phrase pour moi la plus politique d'un écrivain, c'était la phrase de Kafka, qui écrit dans son journal que écrire, c'est sauter en dehors de la rangée des assassins, qui pour moi a été vraiment lumineuse et qui m'accompagne, qui m'a accompagnée, qui m'accompagne. Et en fait, je trouve qu'elle, si on la prend vraiment au sérieux, elle est très concrète, parce que sauter en dehors de la rangée des assassins, ça veut dire aussi prendre appui. Et pour un écrivain, on prend appui sur les mots, justement. Mais ça crée une distance justement, avec ce qui est dit d'habitude, avec ce qui est dit de façon conventionnelle, consensuelle, etc. Bon, les assassins, bien entendu, étant chacun ayant les siens, bon, et étant aussi là pour tout le monde. Bon, enfin, qui sont les assassins est évidemment une des premières questions qu'on peut se poser si on se met à réfléchir. Bon. Et je crois que cette question, donc, de sauter, c'est vraiment aussi la question du possible, comme vous dites très bien. C'est-à-dire, c'est la question de créer un écart, créer du jeu, J-E-U, en tenant compte du jeu, bon, voilà, etc. Bon, mais c'est aussi une façon de montrer que autre chose peut avoir lieu. Et ça, je pense que c'est vraiment, comment dire... Bon, c'est toujours une question pour n'importe quel être humain, c'est toujours une question pour un écrivain, et c'est peut-être aussi toujours une question spécialement maintenant, bon, ou avec des tas de choses qu'on peut analyser. Bon, il y a une espèce de phénomène que vous avez rappelé, le « moi aussi », c'est-à-dire une parole public qui circule dans les médias, dans les talk shows, dans la télévision, etc., qui, au fond, est une sorte de trivialisation du langage. C'est-à-dire, trivialisation, on raconte des anecdotes, on raconte « ça s'est passé comme ça pour moi », mais de telle sorte, c'est quoi la trivialisation? C'est le fait de donner des faits sur lesquels on n'a aucun moyen de penser. C'est-à-dire, bon, si on dit, voilà, voilà, mon père m'a fait ceci, ma mère m'a fait cela, enfin bon, tout ce qui peut circuler dans ce que tout de même j'appellerais l'extrêmement mauvaise littérature, bon, il n'y a aucun point où on peut s'accrocher pour penser quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est quand même la définition d'une chose triviale au sens de anecdotique, bon, vraiment. Et ça, je pense qu'il y a une lutte à mener par rapport à ça. Bon. Et c'est vrai que oui, je crois que la question du possible, de l'invention, est évidemment une façon de montrer qu'il y a autre chose. Mais de l'exhiber d'une façon presque limite, parfois brechtienne. Bon, mais il n'y a pas que ça.
Alors là, en vous entendant me répondre, je pensais à l'essai de Vincent Kaufmann, ce que les médias font à la littérature, dans lequel il fustige ce qu'il appelle la littérature de proximité, qui est fondée donc sur le moi aussi, l'identification, la compassion, l'empathie. Et il la fustige au nom de l'impossibilité dans laquelle elle enfermerait le lecteur, justement de faire ce saut, de s'écarter, de penser. Et donc, au nom de l'herméneutique, en fait. C'est-à-dire qu'il associe littérature de proximité empathique, enfin plutôt, il dissocie, pardon, littérature de proximité empathique, ce que vous appelez mauvaise littérature, entre guillemets, bon, bien sûr, et la littérature qui permettrait une distance et un travail herméneutique, critique, que, selon Kaufmann, la littérature de proximité ne permettrait pas. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inquiétude qui semble, qui vous semble commune, même évidemment en venant de, d'horizons divers et de et d'un travail de nature diverse, différente, mais qui vous semble commune par rapport à cet écart, ce saut dont parle Kafka, cette image du saut.
Oui, c'est-à-dire bon, ce qu'il faut surtout se comprendre, il me semble, c'est là que c'est cette dimension d'inquiétude est une dimension très concrète, très matérielle, enfin d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout, disons, une... enfin, je dis juste ça parce que ça me paraît important, une intellectualisation de la littérature. C'est quelque chose, en fait, qui est sensible. Tout le monde pense, tout le monde a des idées, n'importe qui. Et n'importe qui peut voir que quand on raconte une anecdote, ben, il n'y a rien. Il y a tout de même dans la... dans la société telle qu'elle s'est développée là depuis tout de même pas mal de temps, une chose que, ben, en fait, je pense au titre d'un article de quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'estime énormément, Serge Danet, qui avait intitulé un de ses derniers textes Le marché de l'individu. Lui, il parlait de cinéma. Hein. Le marché de l'individu et la perte de l'expérience. Et ça me paraît d'une justesse absolue. C'est-à-dire, il prenait l'image de quelqu'un, je sais pas quoi, qui traverse la Manche à la nage et à qui on tend tout de suite un micro pour dire « Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti ?» Évidemment, la personne disait en gros « oui, enfin, c'était dur. Bon, j'ai eu du mal. Bon, des choses pas vraiment... surprenante, disons. Et ça, c'est tout de même tout un système qui fait que, à force de vouloir faire parler, alors justement, l'individu, moi je dirais, alors pas le sujet, bon, distinction qui tout de même a son sens, surtout si on se réfère à l'inconscient, etc., comme vous avez en effet souligné avant. Bon, on peut rien dire. Et l'expérience elle-même, enfin ça lui-même, Danet cite Virginia Woolf, qui dit que rendre compte d'une expérience est la chose la plus difficile du monde. Ben oui, c'est ça, et c'est ça évidemment l'objet de la littérature, c'est-à-dire de rendre compte d'une expérience singulière, bon, qui donc a des étages et des étages de sens, de, hein, bon, dont il faut essayer de rendre compte de telle sorte que ce soit bon, audible, entendable, enfin lisible, possible de comprendre. Bon, et ça, je crois que c'est vraiment important, et je pense aussi que ça va absolument contre, alors, bien entendu, tout ce qui est la marchandisation de tout, et en particulier de l'individu actuel, mais qui dure depuis un moment.
Et peut-être aussi contre l'obsession de la communication, parce que d'une certaine façon, la distinction que vous venez de rappeler entre l'individu et le sujet, elle se rapporte à une autre opposition, qui est l'opposition que vous faites aussi entre s'exprimer et penser, ce qui n'est pas la même chose. Et vous écrivez qu'il s'agit pour l'écrivain d'inventer, je vous cite, d'inventer par rapport à ce qui est au cœur de la demande, même si ce n'est pas formulé, le langage comme construction du sujet dans son rapport au monde, remise en circulation de ce qui est isolé dans la désolation, pas tant aider les gens à s'exprimer, mais à penser, c'est en majuscule.
Oui, oui, oui.
Et donc, créer du « je » sans « u » et créer du « je » avec « u », finalement, c'est à peu près une même opération.
Oui, ça, je crois, mais je pense que tout le monde fait l'expérience de comment la communication peut être plate, voire vide, dans les temps qui courent, et comment c'est important d'essayer de, justement, retrouver des mots pleins. des mots, bon, oui, enfin, de, qui ne soient pas creux et qui ne soient pas, bon, qui ne soient pas n'importe quoi. Mais ça, je crois que c'est vraiment, bon, ben, l'écrivain se sent tout de même un peu tenu à ça, mais tenu à ça parce que ce qu'il aime, c'est le langage. Bon, enfin, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui va dans le sens de son désir d'un écrivain, je crois, que les mots puissent résonner le plus possible. Ça, c'est vrai que ça va tout à fait contre bon, enfin, ce qui se passe depuis peut-être très longtemps.
Ce souci du mot est, pour, est chez vous, en fait, qui effectivement est présenté à travers l'importance du discours accordé au personnage et du mode d'énonciation du personnage, qui est très souvent la question, effectivement, beaucoup plus que l'assertion. Hein. Ce travail littéraire-là et le souci du mot, donc le souci du mot juste, propre, etc., sans doute rejoint une inquiétude, et je vais essayer de faire le lien avec le Marie Connell que nous avons entendu hier soir, rejoint la nécessité de lutter, alors pour ce qui concerne Marie Connell, contre la langue, je pense en particulier à ses livres Entre chagrin et néant, comment on expulse la responsabilité en miettes, bon. Contre la langue de l'administration, hein, dubliné, non dubliné, CAO, non CAO, etc. Bon. Pour restituer du sens et restituer la part de la personne qui n'a pas à être considérée comme un cas, hein, dans un système donné. Ou bien, ce souci du mot, il apparaît aussi dans un certain nombre alors, de travaux universitaires. Là, je vais parler plutôt donc, du côté hein, des chercheurs qui ont travaillé, par exemple, sur la langue de l'entreprise ou la langue du management dans la littérature contemporaine ou sur la contamination, en quelque sorte, évidemment, pas simplement d'un système de langue, mais d'un système de pensée. Je pense en particulier au très beau livre de François-Emmanuel qui s'intitule « La question humaine », hein, dans laquelle la récupération, finalement, de la langue du Troisième Reich par le discours managérial est contestée, est dénoncée hein, par des blancs dans le texte de façon extrêmement efficace. Donc il y a effectivement, dans le souci du mot juste, propre, et qui ne soit pas une abréviation, un acronyme, etc., ni une onomatopée, ni un cliché, ni un stéréotype qui circule à tort et à travers. Évidemment, un intérêt d'écrivain, puisque l'écrivain travaille avec le langage, mais bien sûr un intérêt politique, en ce sens-là, par rapport à la question de la cité.
Oui. Ben oui, c'est-à-dire que... ben moi, j'avais écrit que l'importance d'essayer de lutter, mettons, contre ce que j'avais appelé la catégorie, la case et le cas. Donc, c'est vraiment les trois choses qui sont en effet le propre d'un langage administratif, mais finalement qui mène tout droit à quelque chose... du totalitarisme, c'est-à-dire de quelque chose de un pouvoir surplombant saurait ce qu'il en est des personnes, les mettrait dans des cases, dans des catégories, et aussi bien en ferait des cas et pas des sujets. Bon. Et ça, je crois que c'est vraiment ça va de pair avec alors peut-être aussi une lutte contre des formes de silence. Bon, dans le petit livre sur mai 68 que j'ai fait à l'occasion des 50 ans, bon, je rappelle que mai 68 est venu finalement après, ce que moi j'ai analysé comme une espèce de chape de plomb de silence qui était dans la société gaulliste à ce moment-là. Bon, c'est-à-dire avec des films aussi qui soulignaient le silence pendant la guerre d'Algérie et tout ça. Donc, le silence relatif. Il y a eu, heureusement, évidemment, des tas d'intellectuels qui se sont bagarrés contre ça et tout. Mais voilà. Donc, je pense que... la la question du langage mort, du langage qui est là comme un... oui, comme un cadavre, d'une certaine façon, c'est vraiment très présent pour l'écrivain. Bon. Et qu'il y a disons, une nécessité de retrouver ce que Dostoïevski a appelé à un moment donné la vie vivante, ce qui est vraiment le souhait de n'importe quel écrivain qui travaille le langage, d'une façon ou d'une autre.
Oui, qui écrivait, je crois que vous citez cette phrase qu'il y a longtemps déjà, qu'ils ne sont plus nés de pères vivants.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire, c'est vraiment là le père, c'est vraiment la question de d'où on tire. C'est ce qui est donné. D'où on tire. Donc, dans quoi on est et donc ce qu'on veut transmettre aussi. Oui.
Et ce que vous voulez transmettre sur un plan éthique, c'est justement qu'il n'y a pas de nature humaine donnée. Mmh. Ça, c'est...
Là aussi, je citerai Hannah Arendt. Il n'y a pas, ce n'est pas l'homme avec un grand H, mais les hommes qui font l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a toujours une dimension de pluralité. C'est à la fois évident, mais en même temps, il faut le reconnaître, puisqu'il y a toujours le désir de refermer dans des catégories qu'on connaît déjà. Et ça, je pense que c'est... Oui, il n'y a pas de nature humaine, il y a des situations dans lesquelles des hommes font des choses, et il faut être en éveil par rapport à ça.
Et le mot éveil, entre autres, peut éveiller, d'où aussi l'importance du...
Oui, je crois que le mot éveil, comme éveil, une parole juste qui touche, et elle touche à la fois parce qu'elle est universelle et singulière, ce qui est quand même...
Et vous citez aussi Kafka à propos de ce mot qui... non seulement du sceau de la pensée, mais Kafka qui écrit le mot juste... conduit, le mot qui n'est pas juste, séduit.
Oui.
Et effectivement, sans doute, la société de séduction dans laquelle nous vivons exige une vigilance particulière à propos de la justice.
Oui. C'est la question de comment déjouer ce à quoi la société fait quand même appel constamment, à savoir l'absolue bêtise. Faut être clair. Faut tout de même être clair. C'est tout de même comme ça. Pourquoi ça séduit ? Ça séduit parce que c'est simple, facile, pas de problème, et qu'on met justement dans des catégories des cases et des cas. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, ni de ce siècle, ni même du siècle précédent, etc. Mais tout de même, la question de la marchandise, la question du marché, ce qui est quand même fondé sur une simplification, justement, très simple, j'achète, j'achète pas. Tout de même, c'est ça la base du marché, c'est-à-dire que c'est quand même binaire. Et ça, je crois que ce côté binaire du marché, l'incitation du marché, ça passe dans tout. C'est mon impression. Donc, c'est ça la séduction. C'est quand même l'appel à cet aplatissement-là. Alors, bien sûr, il ne suffit pas non plus de faire des groupes qui se rappelleraient, par exemple, complexité, complexité. Ça serait bien, mais ce n'est pas si simple, justement. Une petite bannière, mais non. Il faut justement inventer.
Alors, et justement, par rapport à ce constat que vous faites, qui n'est pas particulièrement réjouissant, vous êtes, ce qui caractérise, j'ai envie de dire, l'humeur de votre œuvre et le ton de votre œuvre, c'est l'énergie, et aussi d'ailleurs quand on vous en parle, c'est l'énergie, le pari sur l'initiative, le pari sur l'émergence du possible, sur l'initiative, et évidemment, je pense que aussi, vous venez de citer Hannah Arendt, je pense qu'il y a cette dimension de la croyance au pouvoir du commencement.
Absolument.
Et aucune, c'est une chose qui me frappe, aucune mélancolie. Il y a une sorte de combativité.
Ah, et pourtant... non, c'est pas vrai. Là, je pourrais pas dire grand-chose, si ce n'est que Je crois que le bon, ça a peut-être à voir avec bon, je préfère miser, on peut dire, sur le commencement. Oui. Bon, sur la question des enfants, tout de même. Bon, ce qui, après tout, elle est là. Bon, sur la question que du possible et certainement aussi sur le pur et simple plaisir du renversement. C'est-à-dire que ça, c'est peut-être une chose qui m'a été donnée après tout aussi parce que j'ai vécu 68. Et puis aussi une certaine, attache avec l'importance de prendre, enfin la nécessité, je dirais, de prendre en compte l'inconscient.
Oui.
Tout de même, l'inconscient, comme vous le savez, ne connaît pas les contraires. Enfin, plutôt, tout passe dans son contraire constamment. Bon, et ça, si on le prend au sérieux, vraiment, et si on essaye d'imaginer des traductions, disons, dans le conscient de ça, c'est très plaisant. Ça provoque beaucoup le rire, ça provoque beaucoup d'énergie. Enfin, disons, il me semble.
Mm-hmm.
Alors, voilà, bon, oui. La mélancolie, c'est... Bah, de toute façon, pour tout le dire, la mélancolie est là. Bon, rien n'est plus mélancolique qu'une marchandise, au fond, si on y pense. Ou, bon, c'est-à-dire, c'est pas simple. Je crois vraiment que ce monde qui se veut... très comme ça, avec beaucoup de paillettes, bon, et aussi profondément mélancolique, dans la mesure où le désir, s'il est uniquement motivé par l'achat, c'est vraiment d'un ennui total. Et l'ennui, c'est vraiment le contraire de la vie vivante, c'est la mort dans la vie, l'ennui. Bon. Donc c'est vraiment, c'est terrible.
Il y a les paillettes et puis il y a aussi sans doute la présomption de maîtrise en permanence.
Oui, hein? Oui, oui. Et comme la plupart des gens sont dans une situation où on est tous là, je pense, où on maîtrise très peu, c'est évidemment, si on prend ça vraiment comme ça, à la lettre, c'est vraiment triste. Donc il faut trouver d'autres voies.
D'autres voix, VOX, d'autres voix, VOX.
Voilà.